Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, nous sommes chez Maison Aleph, une boutique de pâtisserie en bleu et blanc au cœur de Paris, pas très loin du BHV. C'est un endroit qui vous invite au voyage vers un Levant merveilleux qui se traduit dans les pâtisseries franco imaginaire, va-t-on dire, de Myriam Sabet, sa pâtissière. Bonjour Myriam.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Alors Myriam, la première fois qu'on s'est vue, c'était début 2017 de mémoire. On était au L, dans la rédaction du L, et vous étiez venue avec vos pâtisseries, vous vous apprêtiez à ouvrir Maison Aleph. Et c'était une grande aventure et vous nous avez apporté, notamment, je me souviens très bien, de petits nids, ce que vous appelez les petits nids en kadaïf. Quel a été l'élément déclencheur de ce projet de Maison Aleph?
En fait, la naissance de ma fille en 2011, donc ça remonte déjà il y a longtemps, a fait, alors que j'étais dans une autre vie, donc j'étais en finance, mais on dirait que la naissance de ma fille, à ce moment-là, a un petit peu... c'est comme si je vivais en fait le premier jour du reste de ma vie et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça mon moteur à ce stade-là de ma vie et que je me suis un petit peu plus reconnectée avec mon inner self, mon entre, ce qui m'animait. Et c'était clairement un projet, j'avais hâte et envie d'un projet créatif, entrepreneurial, où j'apportais quelque chose qui est clairement, pour dire la phrase la plus bateau, mais qui est d'apporter du sens à mon quotidien, aux heures et heures de travail que je faisais, mais je n'avais pas trouvé. Et en fait, c'est au bout d'un an, tout simplement en allant chez des amis gastronomes, et mon mari qui me pousse, qui me dit « Mais non, mais prends... » Je dis « Moi, je vais aller prendre du champagne, une boîte de gâteaux, de chocolat. » Il me dit « Non, mais prends des pâtisseries plutôt d'origine du Moyen-Orient. Tu vas voir, ça va être différent. » J'ai fait le tour de Paris à l'époque, donc en 2013. Et vraiment, j'avais honte de voir la qualité de ce qui était offert à Paris en termes de produits d'origine du Moyen-Orient. C'était vraiment pas qualitatif, ultra sucré, ultra gras. Et j'ai quand même très honteuse à porter ces gâteaux-là avec moi. Et en fait, j'ai été surprise de voir que ça avait
l'accueil,
beaucoup plu.
L'accueil qu'ils recevaient malgré tout.
Malgré tout. Et c'est là, en fait, où j'ai eu ce déclic. Alors que j'étais, bien sûr, je suis passionnée de gastronomie. La gastronomie fait partie de ma vie depuis petite. La gastronomie est un art de vivre dans ma famille. Et... Mais jamais j'ai eu le courage même de croire que je pourrais en faire une vie, un métier. C'était complètement tabou. C'était même pas envisageable. Et là, j'ai eu ce déclic-là. À ce moment-là, j'ai dit, mais en fait, et si finalement, je m'investissais dans cette carrière qui va être et créative, et gastronomique, et en plus en pâtisserie, je savais que c'était dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, que j'allais le plus peut-être apporter quelque chose. Je suis tellement gourmande, j'ai toujours toujours imaginé les mariages de saveurs. Je lisais les bouquins de recettes de ma mère de pâtisserie et j'essayais, alors qu'il n'y avait pas d'image dans ces livres-là, ou très peu, ou peut-être un peu à l'ancienne, j'essayais d'imaginer des mariages de saveurs. Je mélangeais les glaces, tel parfum avec tel parfum, ce que ça allait donner. Donc c'est là où je me suis dit, peut-être que ce domaine-là, finalement, et il y a quelque chose à faire.
Coche toutes les cases.
Et en plus, peut-être que c'est là où je serai la plus créative. Et voilà, directement, ça s'est enchaîné par un CAP. Pour moi, c'était fondamental d'avoir et les bases de la pâtisserie française. Donc, j'ai fait un CAP de pâtisserie française à Paris. J'ai bossé dans une brigade en tant qu'ouvrière, vraiment à la base, chez La Durée, Potel et Chabot, etc. Et j'ai appris aussi la base de la pâtisserie du Moyen-Orient chez un maître pâtissier très vieux, qui a 80 ans, mais qui était dont le père était pâtissier du temps de mon grand-père à Alep. Donc ça, c'était un petit peu la petite histoire un peu mignonne. Et ensuite, voilà, c'est suivi un an, pas mal de recherches.
Vous arrivez avec un projet et vous vous dites, je veux faire de la pâtisserie orientale, mais différemment des autres. De quelle manière est-elle différente, cette pâtisserie ?
En fait, c'est une maison de pâtisserie et d'épicerie parisienne. On est vraiment à Paris et c'est ce qui s'adresse au public parisien, d'inspiration levantine. Pour moi, le mot oriental, c'est bien évidemment, c'est un référentiel dans la tête des gens, mais c'est comme si on mettait dans le même panier tous les pays qu'on peut appeler orient.
Européen, voilà. Et qu'on mélangeait la cuisine russe et la cuisine italienne en disant, c'est pareil en fait.
Ou alors la pâtisserie française et la pâtisserie anglaise, par exemple. Donc voilà, donc c'était vraiment, j'ai voulu définir mes inspirations, et mes inspirations sont naturellement levantines. Donc c'est toute la région, tout ce qu'il y a de commun dans cette région-là, au Moyen-Orient.
Si on décrit la région géographiquement...
C'est le plus au nord, c'est la Turquie, ensuite Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Palestine et même l'Iran. C'est des pays qui ont, pour des raisons aussi historiques et de melting pot, puisque ça a été une région commune pendant des centaines d'années, qui va avoir en commun les mêmes fruits, qui a la même météo, qui va avoir les mêmes fruits, les mêmes...
Un patrimoine culinaire.
Complètement.
Et de produits et alimentaires communs.
Exactement. Donc moi, ce que je fais, ici, on ne trouvera pas de pâtisserie traditionnelle de cette région-là. D'ailleurs, beaucoup de gens peuvent être déçus en venant ici en se disant « Tiens, moi, je viens acheter telle pâtisserie traditionnelle » et qui sont déçus de ne pas la trouver. C'est une maison qui s'adresse à une clientèle parisienne qui a envie d'être surpris, d'évasion, d'étonnement, de découverte aussi, d'émotions, de sensations. Et voilà, en fait, ce que j'essaye d'offrir par les glaces, les pâtisseries, les chocolats, ces émotions-là aux clients.
En fait, c'est les meilleurs des produits, notamment français, mais avec des parfums, notamment, et des types de produits, des typologies presque de gâteaux qui, eux, sont d'inspiration levantine.
Et aussi le meilleur des produits du Levant. C'est-à-dire que, clairement, la pistache, qui est un peu le béaba quand même de cette pâtisserie-là, avant de choisir cette pistache-là, donc qui vient d'Iran, j'en ai goûté une douzaine différentes pour choisir cette pistache-là. Le zaatar, qui est et en même temps l'origan sauvage, donc l'herbe, et aussi un mélange composé de cette herbe-là. avec du sésame et du sumac. Pareil, j'ai été sur place au Liban, Jordanie, et j'en ai goûté au moins 8 pour vraiment choisir mon fournisseur. Et les épices, j'en parle même pas. Donc, pareil, dans les épices, si on n'aime pas la cannelle aujourd'hui et qu'elle a tellement mauvaise presse, c'est parce qu'en fait, c'est juste une mauvaise cannelle qu'on nous a habitués à manger dans les supermarchés, dans les pâtisseries et surtout à profusion, alors que c'est un subtil dosage. Donc, je pense pouvoir dire que dans les matières premières que l'on utilise, autant françaises que levantines, on essaie quand même d'aller chercher le meilleur et d'avoir un équilibre et subtil et raffiné.
Vous êtes vous-même, Myriam Sabet, le fruit du voyage, puisque vous êtes née à Alep. Vous y avez vécu à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans. Exact. Et ensuite, vous êtes partie avec vos parents sur des destinations assez lointaines. Racontez-nous votre enfance.
Donc moi, je suis née à Alep. Et petite parenthèse, donc, la maison s'appelle Aleph. Et Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet qui est commune en plus à toutes ces régions. Donc c'est la première lettre en hébreu, en arabe, en turc et en perse. Donc c'était aussi cette volonté au sein de la maison
de rassembler
et d'avoir une maison d'inspiration de tous ces pays-là. Donc oui, je suis née à Alep, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite en fait mon père est ingénieur agronome et travaille déjà dans les années 80 dans les pays en développement. Et donc, il nous a amenés avec lui dans ses bagages en Afrique de l'Ouest, au Niger et au Bénin, où j'ai passé ma scolarité, mon collège et mon lycée, au lycée français. J'ai passé mon bac en 94. Et à ce moment-là, j'avais la possibilité soit de venir à Paris faire mes études, soit d'aller à Montréal. On avait de la famille là-bas. Et en fait, j'avais été prise par cette piqûre quand même de l'expatriation, de l'envie de découvrir de nouveaux horizons. Je connaissais Paris et j'ai été faire mes études à Montréal. Milieu où on peut en même temps vivre en français et être complètement dans un environnement anglo-saxon. Donc, période fondamentale pour moi des 17 à 24 ans. Ça a été une période où on se construit sans préjugés, sans idées reçues. Et c'était merveilleux, merveilleux.
Et puis donc, un pays neuf.
Il y avait très peu de Français à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, c'était tout
était... Pas Internet.
Voilà. Donc, c'était une super expérience et où... Et pareil, oui, je pense que dans toute ma vie, j'ai été un peu eu ce sentiment d'exil et de nostalgie de ce que j'ai quitté, mais en même temps très heureuse de découvrir une nouvelle, de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, de nouveaux plats, de nouveaux amis. Et ensuite, à nouveau, la piqûre du voyage m'a reprise, puisqu'au bout de 7 ans à Montréal, à 24 ans, j'avais trouvé mon super job de rêve qui était d'être dans la diplomatie et dans la coopération canadienne. Et j'avais eu aussi un job à Paris en finance, sauf que la diplomatie canadienne se faisait où ? À Ottawa. Et la finance, bah, c'était à Paris. Donc là, il n'y a pas eu de...
voilà. Ottawa, si tu nous entends. Vous revenez à Paris. Est-ce que vous diriez que la cuisine et le choix que vous avez fait à un moment de votre vie de vous investir dans la pâtisserie levantine, c'est aussi un moyen de raconter des origines en patrimoine immatériel?
À chaque fois dans mes différents voyages, les notions les plus... les choses complètement intangibles, mais qui vous définissent quand même, c'est pour moi la langue que l'on parle. Enfin, chaque langue que l'on parle, si on a la chance de parler plusieurs langues, nous renvoie dans un stade de notre vie, la musique aussi, nous fait vivre des sensations différentes selon les musiques que l'on entend, et aussi, bien évidemment, la gastronomie. Et je pense que ça, c'est propre, pour le coup, mais vraiment à tous les êtres humains. On le voit bien...
Et à toutes les cultures.
Et à toutes les cultures. On le voit bien que lorsque... Le français, typiquement, qui est à Montréal, quand il est nostalgique de sa France, avoir peut-être envie que d'un Saint-Honoré ou d'un Paris-Brest.
Plus que d'une poutine, oui, sans doute.
Plus que d'une poutine. Pour moi, la gastronomie est une expression de la nostalgie, mais aussi du voyage.
De l'identité.
De l'identité également. Et c'est aussi une expression d'une identité multiple. On peut, dans un habit... peut-être montrer une facette de sa personnalité, alors que lorsqu'on mange, on peut ressentir vraiment plusieurs facettes de sa personnalité par les parfums, par le type de culture, le type de cuisine, quoi.
Ce qui est arrivé en Syrie depuis 2011, si ma mémoire est bonne, est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle, Myriam Sabet, dans le choix, alors peut-être de ce changement de carrière, mais surtout le choix de rendre hommage aussi à tout ce patrimoine?
Sûrement, je me le suis pas vraiment formalisé comme ça, mais la concordance des dates doit sûrement avoir quelque chose là-dedans, en sachant que pour moi, c'était plutôt une envie de mettre en valeur tout le patrimoine de cette région-là. Donc, je m'inspire dans les graphismes de nos boîtes, avec des graphismes qu'on a retrouvés sur les sols de palais à Alep, sur des miroiries au Liban. J'ai un nouveau projet sur des graphismes qu'on retrouvera dans la région Israël-Palestine-Jordanie. Donc, je pense que c'est une région qui, de toutes les manières, est très ancienne, avec une culture dans le sens esthétique, très ancienne, et qui a aussi beaucoup voyagé. Et j'aime bien extraire certains graphismes pour les rendre complètement contemporains. Et peut-être, oui, c'est inconsciemment une manière d'inscrire à Paris, au XXIe siècle, des graphismes et des goûts et des textures vieux de plusieurs centaines d'années.
Et en avant ce qui rassemble dans cette région plutôt que ce qui divise.
Ah oui, non, mais moi j'ai horreur des préjugés, des stéréotypes que l'on peut coller à des personnes du fait de leur nationalité, du fait de leur religion.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du fait de leur pays d'origine, orientation. Enfin, je veux dire, c'est le cas de, bien évidemment, du monde entier, mais particulièrement dans cette région. Notre personnalité est complètement façonnée par notre vie et elle n'est pas du tout
définie
par le pays de naissance, la ville de naissance, la famille de naissance et la maison de naissance.
Bon, on a la chance devant nous d'avoir sur les ravissantes tables en marbre des gâteaux, une petite sélection de gâteaux, car oui, dans ce métier, nous donnons tout, absolument tout, donc nous testons. Alors, je viens de manger un petit nid. Alors, c'est du cadaïf, c'est ce qu'on appelle les cheveux d'ange,
ouais, exact,
hein, qui
exact.
Sont travaillés de manière...
Oui, qui sont cuits dans un beurre clarifié, que l'on clarifie, et caramélisés presque au goutte à goutte pour vraiment calculer la quantité de sucre que l'on met, qu'il n'y en ait pas trop.
Voilà, et puis à l'intérieur, il y a généralement une petite surprise, on va dire.
Voilà, et là, c'est un confit de grenade, de rhubarbe.
Moi, j'ai eu rhubarbe qui était absolument délicieux, et dessus, une crème parfumée. Moi, c'était une crème parfumée à l'amande qui était
exact.
Folle.
Ouais,
je dois le dire, absolument folle. Alors, je vais enchaîner car je suis prête à tout pour son métier. Vous le savez, je vais tester miel abricot qui a l'air absolument magnifique, qui ressemble à un petit œuf posé sur le cadaïf. Nous parlions de votre enfance. Qui a développé votre goût? Je sais que j'ai lu dans certaines interviews que vous parliez beaucoup de votre grand-mère et de la cuisine qu'elle faisait, qui était une cuisine typiquement à l'épine.
Oui. Le goût, je pense qu'il est... En fait, il a été développé et par mes grands-mères, mais c'est surtout par les repas en fait, qu'on faisait. Bon, bien évidemment, le repas dominical, il avait toujours lieu, et avec cousins, le repas bourgeois autour de la grand-mère, avec à chaque fois des goûts différents. Et comme je vous disais, à Alep, il y a beaucoup, il y a une forte culture gastronomique. Donc que ce soit les fruits sont ultra bons, ultra matures. Bien évidemment, tout est de saison. Ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est d'office que tout est de saison. C'est même pas quelque chose que l'on revendique. C'est d'office que c'est comme ça. Avec une forte culture gastronomique, une culture aussi des provisions que l'on fait à telle époque, les tomates que l'on fait sécher sur les toits en septembre pour faire les provisions toute l'année, le poivron rouge, les confitures de pétales de rose, le cédra. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai retravaillé ici en pâtisserie, d'intégrer le cédra qui est un agrume de Méditerranée, la bigarade aussi qui est l'orange amère. Je pense que j'ai eu vraiment la chance de grandir dans cette ville-là qui a... façonné mon palais, et aussi parce que j'étais très intéressée par cette chose-là. Mon père m'emmenait toujours dans les marchés. On apprend aussi avec les marchands, avec les primeurs, avec les producteurs, et aussi le fait d'avoir eu la chance d'habiter dans autant de pays et donc de découvrir pendant l'enfance, l'adolescence et le jeune âge adulte plein de produits différents. Et donc c'est clair, ça construit un palais, et aujourd'hui ce palais m'aide à faire la sélection des matières premières et surtout à imaginer des parfums. Les idées de là, par exemple, cette année, on a sorti des nouvelles glaces et c'est clair, je me suis éclatée à les faire. Mais voilà, je ne sais pas d'où vient l'idée, mais de faire une glace vanille safran, je me suis dit, on est dans le quartier où il y a les meilleurs glaciers de Paris, je ne vais pas faire juste une glace vanille, mais donc lui apporter ce côté suave du safran. La café cardamome, naturellement, sésame alva abricot, une glace à la rose, enfin, c'est framboise sumac, pour moi c'est un jeu d'enfant et j'adore faire ça.
Vous puisez votre inspiration dans votre histoire, mais est-ce que c'est aussi à travers les voyages aujourd'hui, à travers j'imagine des livres de pâtisserie orientale, est-ce que c'est même à travers des musiciens? Je sais que vous adorez par exemple la chanteuse Yaz. Est-ce que voilà, d'où vient votre inspiration aujourd'hui?
Alors moi je m'inspire beaucoup de tout mais je peux très bien avoir en lisant, en feuilletant un bouquin de Pierre Hermé, qui est quand même quelqu'un qui a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette aventure-là. Quand je vois, par exemple, un macaron qu'il a fait avec du vinaigre balsamique et de la fraise, tout de suite, en fait, ça me fait penser à travailler la mélasse de grenade, donc qui va être construite différemment qu'un vinaigre balsamique, mais qui va répondre à la même chose. Et donc, il me dit, tiens, ça peut être intéressant de travailler la mélasse de grenade en pâtisserie. Et donc, avec quoi je la mélange? En effet, je vais la mélanger avec de la grenade, du marron, du pignon. C'est en fait, je crois qu'en même temps, je garde cette bibliothèque des goûts toujours active que je liste parfois. J'écris des listes de parfums que je connais, j'ai connus petite ou dans mes voyages aussi. Je m'autorise pas encore à faire des créations autour des parfums d'Afrique ou du Canada parce que je me dis que pour l'instant, j'ai encore tellement de choses à puiser dans le Levant et en France. Mais
vous êtes loin,
beaucoup,
Myriam, d'avoir épuisé encore le Levant.
Ah, mais franchement, j'ai une chance énorme, quoi, et d'avoir encore des idées. Et en fait, c'est énormément de situations. Je voyage aussi, mes vacances sont pour l'instant pas mal en Méditerranée, donc que ce soit en Espagne ou en Italie. Par exemple, l'Italie travaille aussi la réglisse. Et clairement, la réglisse, c'est pas du tout quelque chose auquel on est habitué en pâtisserie ici. Mais ça m'a donné envie de travailler un dessert autour de ça, parce que je l'ai aimé, j'ai goûté, et j'en ai fait un avec du citron, de la réglisse et de la noisette. C'est toutes ces situations-là qui me m'animent et qui me donnent envie de, voilà. Après, la musique, c'est plutôt une énergie. Ces musiques-là, c'est plus une énergie que ça me donne, parce qu'on travaille en musique, et voilà.
Vous avez été l'une des pâtissières présentes dans le documentaire Profession pâtissier-pâtissière sur Canal+, forme de reconnaissance également. Qu'est-ce que ce type d'expérience vous apporte, Myriam Sabette ?
Le simple plaisir et joie d'être interviewée par Antoine Decaune.
Ce qui est déjà pas mal. Merci Antoine, si tu nous entends.
C'était un bonbon, quoi. C'était, j'étais pareil. C'est des moments hors du temps, où je me sens comme une gamine, comme quand je vous ai rendu visite, quand vous avez bien voulu me recevoir à la rédaction du L.
Nous sommes toujours prêts à rendre service, surtout quand il y a des gâteaux qui arrivent, franchement.
En 2017, je me retrouvais là, dans la rédaction du L, que bien évidemment je lisais, que ma mère lisait, que ma grand-mère lisait, que tout le monde lisait. Je me dis, mais qu'est-ce que je... Enfin, je suis là grâce à mes gâteaux. Et pareil, je suis sur le plateau avec des super grands pâtissiers français de la nouvelle génération à Canal+, mais surtout, je suis interviewée par Antoine Decaune. Mais c'est, je veux dire, c'est des rêves d'enfants, c'est merveilleux. Et ça, quoi, grâce aux gâteaux. Mais genre, je vais en faire
vive
toute ma vie.
Vive les gâteaux, vive les gâteaux.
Je vais en faire toute ma vie des gâteaux. Ouais. Ouais.
Vous êtes aussi chef d'entreprise, puisque Maison Aleph a maintenant 4 ans.
Exact, ouais.
Comment s'est passé les deux dernières années qui ont quand même été un peu sportives pour tout le monde?
Ouais, je pense que la seule chose qu'on n'a pas vécue assez dure, c'était les attentats. Mais sinon, si vous voulez, on avait eu les gilets jaunes, les grèves, le Covid, donc...
On est
donc,
pas mal. On nous manque une petite météorite et on aura toutes les cases.
On serait pas mal, ou désigné, voilà. Et en fait, je pense que la nature première d'un entrepreneur, pour qu'il soit heureux dans son métier, dans ce qu'il fait, c'est qu'il doit être prêt à recevoir des nouvelles situations, pas comme des emmerdes, mais comme des solutions à apporter. Je l'ai appris très, très, très vite. Je pense que même avant
des
d'ouvrir...
Des équations, il faut trouver des moyens d'y répondre.
En fait... Il y a une phrase qui vraiment me m'aide énormément et tout le temps, et je l'oublie et donc je me la rappelle, c'est « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Donc en fait, c'est comment recevoir ces nouvelles quotidiennes.
Qu'est-ce que j'en fais?
Et qu'est-ce que j'en fais et comment j'en fais? Parce que au final, en fait, on va survivre et puis tout ça sera passé. Et voilà. Donc j'ai été très, 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 très active. Beaucoup bossé, beaucoup de nouvelles
idées. Qu'est-ce que ça a transformé chez Maison Aleph?
Déjà, chance inouïe d'être suivie par nos clients. Ça reste, c'est toujours cette émotion-là qui est toujours là, d'avoir les clients qui sont là, qui nous soutiennent, qui reviennent, et des nouveaux clients, et qui, moi, dès que ça va pas, en fait, je reviens en boutique. Donc, je me reprends des doses d'amour, je veux dire, jusqu'aux larmes. Il n'est pas inhabituel d'avoir des clients qui nous communiquent tellement d'émotions dans leur dégustation qu'ils en arrivent aux larmes, et moi aussi. Donc, c'est dingue hein, d'arriver à faire ça avec des gâteaux. C'est juste un cadeau incroyable.
Quel type de solution avez-vous mis en place?
Alors, nous, on a beaucoup travaillé donc en fait on s'est dit les clients, que ce soit avec les gilets jaunes et avec les différents confinements, d'autant plus qu'on est au centre de Paris, certes on est dans le Marais qui est totalement le centre de Paris mais qui est très peu résidentiel, donc on s'est dit en fait les clients ont du mal à, c'est pas qu'ils veulent pas mais ils ont du mal à venir vers nous, allons vers eux. Donc on a mis en place un vrai système de livraison mais en interne où on travaille pas du tout avec les plateformes. On a pris en charge même une partie des frais de livraison comme un service que l'on rend à nos clients pour venir prendre nos gâteaux. Donc on livre tout Paris et première couronne de tous nos produits la veille pour le lendemain, plus on a sorti, je pense qu'on n'a jamais autant sorti de produits sur ces deux dernières années que depuis la création de Maison Aleph. Donc c'est toujours du renouveau, de la création et de là et du service client.
Et j'imagine qu'il y a aussi un certain nombre de produits de Maison Aleph qu'on peut commander et recevoir même bien plus loin.
Ah oui, totalement, oui. Et merci de le rappeler. On a en effet depuis 2 ans un système de tous nos produits sont expédiables en France par Colissimo. Voilà. Donc on a vraiment sélectionné les produits d'épicerie ou les produits, les pâtisseries de garde qui peuvent rester dans les transports, dans
qui
la
voyagent
poste,
facilement.
Qui voyagent et qui peuvent rester 48 heures sans problème. Voilà.
Comment imaginez-vous, Myriam, les années à venir pour vous et pour Maison Aleph?
Tout ce que j'espère, c'est que Maison Aleph va et continuera à exister en plusieurs exemplaires à Paris et sous soit des formes, il y aura une forme identique à cette boutique-là, peut-être dans un autre quartier parisien. Et ensuite, oui, plein d'idées pour les développements sur ce que j'appelle un petit peu des formes hybrides de Maison Aleph, mais ça, on en parlera une prochaine fois.
Myriam Sabet, diriez-vous que les femmes changent le monde à travers les assiettes?
Je pense que les femmes changent le monde à partir du moment où elles croient qu'elles vont changer le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, que ce soit par l'assiette, l'éducation et le travail, mais elle, à partir du moment où les femmes vont, et on l'est de plus en plus, mais à se donner confiance et du bien fondé de ses actions, mais surtout de leur pouvoir, quoi.
De leur légitimité.
Légitimité et du pouvoir qu'elles vont avoir à transformer les choses. À partir de ce moment-là, oui, on sera de plus en plus nombreuses et de plus en plus à transformer le monde. Mais fondamentalement, et ça, ça change de plus en plus, et je vois, moi, dans les jeunes générations, je sens quand même que les femmes nouvelle génération, elles n'ont plus autant de tabous que nous, on pouvait avoir. Et elles y vont, elles foncent, et voilà.
On dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que vous diriez que derrière toute grande femme, il y a aussi un homme qui lui permet d'être.
En tout cas, moi, dans ma
d'être.
Vie, il y a derrière moi, femme, il y a mon mari, mon homme, qui a été en fait à l'origine de ce projet-là. En amont, bien évidemment, mon père, adolescente, qui m'a poussée non seulement poursuivre les études, mais qui
aller
m'a poussée
loin.
À aller loin. Et ensuite, bon, j'ai fait ma vie, donc rencontré mon époux, et c'est alors que j'étais en finance, etc. Et qu'on a eu un enfant ensemble, et c'est lui qui m'a. Moi, je pense que de moi-même, jamais j'aurais eu le courage de quitter ce job-là. Même si au bout d'un moment j'avais envie d'un autre challenge, mais clairement jamais j'aurais eu le courage de prendre ce risque-là. Et c'est lui qui m'a énormément époussée et encouragée et
accompagnée, supportée dans tous les sens,
renforcée, etc. Et d'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui on est, depuis le début il est dans ce projet, mais là depuis 2 ans on est et couple et associé. Et donc, c'est en plus, si vous voulez, c'est Aleph, c'est aussi un prétexte pour passer le plus de temps ensemble et d'avoir un vrai projet de vie à deux. Et voilà, avec les hauts et les bas, bien évidemment, mais c'est un vrai projet de vie. Donc oui, j'en suis très heureuse. Donc clairement, Aleph n'aurait pas existé sans mon mari, oui.
Merci beaucoup Myriam de ce moment avec vous.
Merci de l'invitation.
Nous allons être obligés de goûter encore un gâteau. Je vous invite tous à foncer chez Maison Aleph,
ouais,
pour découvrir la boutique, pour goûter ses produits. Vous allez voir, c'est vraiment un voyage qui en vaut la peine, d'autant plus à un moment où les voyages ne sont pas si simples. Je vous invite aussi tous, les auditeurs de ce podcast, à donner votre avis, à le commenter, à le liker et à le partager. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Elle s'attable.
Elle s'attable, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.